VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcil et Claire Morin-Gibourg, bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du 23 juillet 2015. À la une ce soir.
Au Cameroun, la ville de Maroua, dans l'extrême nord, est encore sous le choc au lendemain d'un double attentat qui a fait 13 morts.
Au Burundi, le pouvoir persiste et signe. Pas d'annulation des élections législatives et présidentielles.
Retour ce soir sur la visite du président américain en Afrique. Barack Obama arrive demain au Kenya.
Premier test au Congrès pour l'accord historique sur le nucléaire iranien. Des responsables de l'administration ont témoigné aujourd'hui devant une commission du Sénat.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Maroua, toujours sous le choc au Cameroun, 24 heures après le double attentat qui a frappé cette ville de l'extrême nord du pays. Deux jeunes filles se sont faites exploser hier. La sécurité dans la ville a été renforcée ce jeudi. Tatiana Mosso.
C'est le gouverneur de la région de l'extrême nord, Miji Yawa Bakari, qui a annoncé les nouvelles mesures. Il y aura désormais un contrôle des véhicules, des biens et des personnes. Certains passages de la frontière avec le Nigeria ont été fermés.
Nous avons demandé à la police, à la gendarmerie, de sécuriser davantage ces marchés, d'instituer des ceintures de sécurité. Et il y a certainement des stratégies militaires que celles seront déployées. Des mesures ont été données. En effet, d'assurer au maximum la sécurité des biens et personnes.
Ces mesures viennent s'ajouter à l'interdiction du voile intégral décidée il y a deux semaines après l'attentat de Fotokol. Les djihadistes de Boko Haram ayant pris l'habitude de se servir des femmes kamikazes. Le président camerounais Paul Biya a condamné ces récentes attaques, appelant la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les forces de sécurité.
Nouvelle violence au Nigeria. 8 personnes ont été abattues par des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram dans un village de l'état de Borno, dans le nord-est du pays, selon les témoignages d'un habitant et d'un milicien recueilli par l'AFP. Borno est l'état le plus durement touché par l'insurrection islamiste.
Au Burundi, c'est demain qu'aura lieu la proclamation des résultats de la présidentielle. Toutes les parties indiquent être disponibles pour la poursuite du dialogue sous les auspices du président ougandais Yoweri Museveni. En revanche, le pouvoir burundais ne veut pas entendre parler d'annulation des derniers scrutins législatifs et présidentiels. Eric Manirakiza.
Le pronat constitutionnel a déjà reconnu la victoire du président Pierre Nkurunziza pour son troisième mandat, contesté par l'opposition et la société civile. Par la voix de son candidat Gérard Ndouaïo, l'ancien parti unique estime que le Burundi devrait repenser son système politique dans la perspective d'une stabilisation démocratique et politique du pays, en tenant compte des équilibres dictés par les accords de paix d'Arusha. Agathon Gwasa, président du parti FNL non reconnu par le pouvoir, voudrait plutôt un gouvernement de transition qui ne dépasserait pas une année en vue de créer un environnement favorable à la tenue des élections transparentes, inclusives et apaisées, une approche refutée par l'Alliance démocratique pour le changement ADC Ikibiri. La présidence burundaise affirme quant à elle que les prochaines élections se tiendront en 2020. Joint par VOA Afrique, Willy Nyamitwe, conseiller de Pierre Nkurunziza, souligne que toute proposition allant dans la logique de bâtir une paix durable serait toujours la bienvenue.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a estimé aujourd'hui que le scrutin présidentiel au Burundi s'était déroulé de manière largement pacifique et a renouvelé son appel au calme et au dialogue. Sans attendre les résultats du scrutin, les États-Unis et le Royaume-Uni ont, eux, estimé que ces élections burundaises n'étaient pas crédibles en raison du climat d'intimidation et de violence qui les ont entourées.
En Centrafrique, l'insécurité met un frein au trafic routier entre Bangui et le Cameroun. Gilbert Yazimongo, de l'Union syndicale des transporteurs centrafricains, a confirmé à VOA Afrique l'arrêt du trafic routier pour protester contre les exactions des groupes armés, mais aussi pour fustiger les actes de vandalisme de la population. Principale voie terrestre reliant Bangui au port camerounais de Douala, la route Bangui-Garoua-Boulaye est essentielle pour les importations de la Centrafrique, pays enclavé.
Les États-Unis réitèrent leur soutien financier au processus électoral et à la stabilisation de la paix en RDC. C'est la déclaration de l'envoyé spécial du président américain dans la région des Grands Lacs. Thomas Perriello a souligné que l'intérêt des États-Unis à travers la région ces deux dernières années se concentre sur les élections présidentielles et le respect des constitutions. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
The United States remains very committed to the partnership with the Democratic Republic of the Congo.
Ainsi que vous le savez, les États-Unis sont très engagés en coopération avec la République démocratique du Congo, et particulièrement en partenariat dans les questions de sécurité, développement et élections. Et la CENI a un rôle important à jouer pendant ces deux années dans le renforcement de la démocratie et surtout par l'organisation des élections. Nous voyons des réalisations très importantes dans ce pays et nous voyons l'engagement de poursuivre le processus et d'arriver jusqu'à son aboutissement. Les États-Unis ont investi et continuent à investir dans le développement du processus démocratique ici en République démocratique du Congo. Et nous continuerons à rechercher l'occasion d'apporter des efforts et des contributions positives. Ce premier voyage a été une occasion pour écouter et apprendre à partir des autorités de ce pays sur ce que vont faire les autorités pour que les États-Unis voient dans quelle mesure ils pourront intervenir.
C'était l'envoyé spécial du président américain dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, au micro de Top Congo FM.
Toujours en RDC, début la semaine prochaine des plaidoiries dans le cadre du procès en appel des 5 policiers poursuivis pour l'assassinat de Floribert Chebeya. L'annonce a été faite aujourd'hui par la haute cour militaire. Le militant des droits de l'homme et son chauffeur ont été tués en juin 2010, mais 5 ans après, son ONG, La Voix des Sans-Voix, attend encore le mot du droit. Les parties civiles et le ministère public seront entendus lundi, suivis 3 jours plus tard par la défense et les avocats de l'État congolais, indique l'AFP.
Et restons en RDC. Les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, où le climat est tendu à l'approche d'une série d'élections. Cette prestation de serment intervient alors que Human Rights Watch et l'ONU se sont inquiétés publiquement d'un, je les cite, climat de répression à l'approche des élections et d'une tendance à l'augmentation des violations des droits de l'homme. Depuis janvier, le climat s'est tendu avec la répression meurtrière de manifestations et l'arrestation d'opposants, de défenseurs des droits de l'homme et de militants prônant le respect de la Constitution.
Crise sud-soudanaise, les négociateurs des deux camps sont attendus vendredi à Addis Abeba pour un nouveau round de négociations. Selon l'AFP, les médiateurs internationaux ont fixé le 17 août comme ultimatum pour... date ultime pour mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays depuis plus d'un an et demi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama se rend demain en Afrique, une visite qui met surtout l'accent sur l'économie. C'est pour la première fois qu'un chef d'État américain se déplace au Kenya et en Éthiopie. Rachid Bouda.
Avant son départ, Barack Obama a plaidé pour une nouvelle dimension des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Face aux diplomates, dirigeants politiques et économiques réunis à la Maison-Blanche, il a renouvelé sa confiance aux Africains et prône le lancement de programmes pour développer le commerce, la santé et la sécurité alimentaire. Monsieur Obama prendra part au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi le 25 juillet, une initiative qui rassemble des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises. En plus du commerce et le développement, les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme seront aussi étudiées avec son homologue Uhuru Kenyatta et les dirigeants éthiopiens. Après sa visite au Kenya, la question du déficit démocratique africain sera évoquée devant les dirigeants de l'Union africaine à Addis Abeba, où prendront part 50 ONG africaines.
Léger remaniement gouvernemental en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a renvoyé le ministre du Commerce, Amara Ben Younes, chargé notamment des négociations avec l'Organisation mondiale du commerce. Il a été remplacé par Berti Belaïb, qui avait déjà occupé ce poste dans les années 90. Un ancien opposant rallié à Bouteflika, El Hadi Wali, a été nommé à la jeunesse et au sport.
3 hauts responsables de l'administration Obama étaient sur des charbons ardents ce jeudi au Congrès, où un débat est en cours sur l'accord conclu entre l'Iran et 6 puissances mondiales, dont les États-Unis. Durant son témoignage, le secrétaire d'État John Kerry a défendu l'accord et l'approche du gouvernement américain. Le président de la Commission des affaires étrangères, le républicain Bob Corker, a dit au chef de la diplomatie américaine qu'il s'est fait avoir par les Iraniens. Mais pour M. Kerry, il s'agissait avant tout d'empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. ont également répondu aux questions des sénateurs. Le secrétaire à l'énergie Ernest Moniz, un physicien nucléaire qui a négocié les aspects techniques de l'accord, et le secrétaire au Trésor Jack Lew. Le Congrès a 2 mois pour prendre une décision pour ou contre cet accord.
Le Pentagone se félicite du déploiement de soldats irakiens formés par la coalition dans une offensive d'envergure contre le groupe État islamique. Selon le colonel Stephen Warren, porte-parole du Pentagone, 3000 soldats de l'armée irakienne formés et équipés par la coalition internationale dirigée par les États-Unis participent à l'opération pour reprendre la ville de Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Il s'est exprimé durant une visite surprise du secrétaire à la défense Ashton Carter, aujourd'hui à Bagdad. M. Carter effectue une tournée au Moyen-Orient en vue de rassurer les alliés des États-Unis concernant l'accord sur le programme nucléaire iranien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et maintenant, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Idrissa Seloudia.
Les États-Unis vont passer en revue leurs relations et niveau d'aide au Burundi au cours des 2 prochains mois après que ce pays eut tenu des élections jugées non crédibles par les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui, selon l'agence Reuters, l'ambassadeur américain. En revanche, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis, Terence McCurley, et le ministre d'État ivoirien, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, ont signé mercredi un protocole d'accord sur l'initiative Trade Africa en vue d'accroître les opportunités commerciales en Côte d'Ivoire et dans la région, indique une note d'information de l'ambassade américaine transmise à l'agence APA. Le président américain Barack Obama sera à Nairobi ce week-end pour le sommet mondial de l'entrepreneuriat. L'occasion de parler de Huub van Grispaard, un entrepreneur et motard néerlandais de 40 ans qui a lancé au Kenya le projet Kibo Africa qui porte sur les Boda Boda, les mototaxis. Avec ses motos robustes et bien entretenues, ses cours de sécurité routière et de premier secours ainsi que son système de microcrédit, rapporte l'AFP, Kibo veut former des conducteurs à devenir des entrepreneurs responsables.
Merci Idrissa Seloudia pour la Minute Éco.
Et maintenant, la page des sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
En Europe, sanctions exemplaires contre le racisme.
Oui, un point a été retiré à la Croatie pour comportement raciste après l'incident en juin lors du match Croatie-Italie. On se souvient qu'une croix gammée était apparue tracée sur la pelouse lors de ce match de qualification à l'Euro 2016 de football. L'UEFA a également décidé que les 2 prochains matchs à domicile de la Croatie se joueraient à huis clos et a interdit la sélection de disputer ses matchs qualificatifs de l'Euro dans le stade de Split. L'UEFA a aussi infligé une amende de 100 000 euros à la Fédération croate qui dispose de 3 jours pour faire appel.
Quelques mots autour des transferts.
Le défenseur international guinéen Florentin Pogba a prolongé de 2 ans son contrat avec l'AS Saint-Etienne. Avant d'arriver à Saint-Etienne, le défenseur âgé de 24 ans né à Conakry a joué au Celta Vigo, toujours chez les jeunes, puis à Sedan. Il est le frère de Paul Pogba, l'international français de la Juventus de Turin. A noter aussi que Hassan Ould Tegedi s'est engagé avec Villarreal où il intégrera le centre de formation dans un premier temps. Villarreal a recruté ce jeune espoir mauritanien. Présenté comme un futur grand, Hassan Ould Tegedi, 17 ans, a donc rejoint la Castilla de Villarreal. Un partenariat a également été signé entre le club espagnol et l'Académie nationale mauritanienne dans le cadre de ce transfert.
Victoire française au Tour de France.
Romain Bardet a gagné la 18e étape ce jeudi à Saint-Jean-de-Maurienne, la 2e d'un coureur français depuis le départ de la Grande Boucle. Le Britannique Chris Froome de l'équipe Sky, qui n'a jamais été en difficulté à préserver son maillot jaune à 3 jours de l'arrivée à Paris.
Et sprint, retour d'Usain Bolt à la compétition.
Et oui, le sextuple champion olympique, qui se fait rare depuis deux saisons en raison de problèmes physiques, se dévoilera sur 100 mètres. Ce sera vendredi soir à Londres. À seulement un mois des mondiaux de Pékin, le sprinteur jamaïcain, particulièrement enjoué, a tenu à rassurer ce jeudi en affirmant « Je ne doute pas et je ne suis pas inquiet. Il reste encore un mois ». Je vous rappelle, Claire, que la saison 2015 de Bolt, qui souffre au niveau du bassin et de la jambe gauche, se résume à une participation aux mondiaux des relais et sur le plan individuel à 3 200 mètres et à un seul 100 mètres.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Robin Dorcy, il est Claire Morin-Gibourg en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Au Cameroun, Maroua, capitale de la région de l'extrême nord, tente de se remettre du double attentat suicide d'hier qui a fait au moins 13 morts, y compris une fille et une femme kamikaze, ainsi que des dizaines de blessés. Arrivé sur place aujourd'hui, le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Bengo, s'est rendu sur les lieux des explosions pour réconforter la population. Selon la radio nationale, il devait présider dans la journée une réunion sécuritaire de crise. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint à Yaoundé le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari.
Les populations ont été secouées dans leur certitude, dans leur assurance, mais très rapidement, les autorités ont trouvé les mots justes pour encourager les populations, mais surtout rassurer ces populations et les inviter à jouer pleinement leur rôle. Boko Haram redoute la puissance de feu de l'armée camerounaise, et c'est pour ça donc qu'ils ont changé de tactique désormais. Les petites filles comme les petits garçons qu'ils prennent en otage ça et là sont endoctrinés pour devenir donc des porteurs d'armes de destruction massive.
Après Fotokol, c'est maintenant Maroua. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger d'une infiltration très importante de Boko Haram au Cameroun?
Nous venons d'être donc interpellés de manière très violente, interpellés pour davantage de prise de conscience, d'éveil, pour les services de renseignement bien sûr, et surtout pour nos populations. Ça a commencé par Fotokol et puis Maroua. Évidemment, les esprits sont un peu inquiets et puis en alerte. Sachez simplement que nous ne redoutons rien, nous n'avons peur de rien. Au Cameroun, la défense appartient au peuple. Ce peuple aujourd'hui il est interpellé, il faut qu'il joue simplement sa partition. Nous nous préparons donc à faire face à toute éventualité.
Au plan régional, les efforts étaient portés surtout sur le plan militaire. Mais maintenant, comment la région va-t-elle s'organiser face à cette nouvelle tactique de Boko Haram?
Tous les pays de la ligne de front engagés dans ce combat pour éradiquer le mal absolu qu'on appelle Boko Haram, tous les pays de la ligne de front, désormais, ont eu à subir d'une manière ou d'une autre ce genre d'agression, attaque suicide. C'est donc chaque pays qui est en train d'élaborer sa stratégie. Le Cameroun, désormais victime également de cette agression, est en train d'élaborer sa propre stratégie pour faire face, pour conjurer dans ce drame.
Le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Départ ce soir de Barack Obama pour le Kenya. Cette visite met surtout l'accent sur l'économie. Monsieur Obama prendra part au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi le 25 juillet. Une initiative qui rassemble des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint le chercheur Amadou Sy de la Brookings Institution.
La marque du président Obama, quand il s'agit de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique, c'est vraiment le volet économique. Déjà, à cause des contraintes au niveau du Sénat, je pense que les Africains n'espèrent pas trop une augmentation de l'aide au développement en provenance des États-Unis. Mais par contre, je crois qu'il y a ici une volonté d'écouter les Africains, d'avoir un partenariat avec les Africains. Et qu'est-ce que les Africains disent? Ils disent, voilà, Nous voulons transformer nos économies. Nous voulons avoir un taux de croissance beaucoup plus élevé. Nous voulons une croissance plus inclusive. Et ça commence déjà par exemple, plus d'infrastructures, plus d'investissements, une part plus importante qu'on devrait donner au secteur privé. Alors là, je crois que les étoiles étaient alignées parce que le président Obama est venu avec cette volonté de soutenir les efforts des pays africains.
Ce voyage du président américain mettra aussi l'accent sur l'intégration économique régionale.
Vous savez, le président Obama va aussi visiter à Addis le siège de l'Union africaine. Vous savez, cette année, il y a trois dates très importantes. On vient juste de finir la conférence sur le financement du développement à Addis. En septembre, on aura la conférence à New York, l'Assemblée générale, où on va parler de ces objectifs qui vont remplacer les objectifs du millénaire. Et bien sûr, à Paris, on va parler du changement climatique et comment s'adapter, comment gérer un peu les effets du changement climatique. Alors l'Afrique, à ma connaissance, est le seul continent qui vient avec une position unique, une position africaine commune par rapport à toutes ces questions du moment. En plus de ça, le Kenya joue un rôle très important, un rôle de leader pour ce qui touche la communauté de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie joue aussi un rôle de leader pour tout ce qui touche, en anglais on dit IGAD.
Est-ce qu'il n'y a pas un goût d'achevé pour la présidence de Barack Obama, dont le programme phare est Power Africa, qui se concentre sur l'électricité ?
Voir les pays africains comme des partenaires économiques, je crois que c'est déjà un très bon début. Maintenant, par exemple, en ce qui touche le programme Power Africa, qui vise à augmenter la production d'électricité dans 6 pays pour le moment, c'est vrai que ça prend du temps. Les contrats, les programmes, les projets prennent du temps à être bouclés. Mais ce n'est pas trop une surprise. Par contre, je crois que l'État américain est en train de dire aux privés américains aussi et aux privés africains, écoutez, réfléchissons ensemble, voyons comment gérer les défis, voyons comment surmonter les obstacles à plus d'investissements.
Amadou Sy de la Brookings Institution, joint à Dakar.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'après-présidentielle au Burundi. 2 jours après ce scrutin controversé, quelle perspective après le passage en force de Pierre Nkurunziza ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h18.
New Delhi et Johannesburg avaient été pressentis. C'est finalement Shanghai qui a été choisi comme siège de la nouvelle banque de développement des pays membres des BRICS, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'inauguration a eu lieu cette semaine et la banque devrait être opérationnelle dès le premier trimestre 2016. La New Development Bank est considérée comme une alternative à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, notamment pour Moscou, qui est durement affecté par les sanctions liées à la crise ukrainienne et à la chute du rouble. Le décryptage de l'économiste et maître de conférences à Sciences Po Paris, Alexandre Kateb.
Cette ouverture est symbolique, hein, puisque elle montre que les BRICS sont capables de passer donc d'un projet sur le papier à une réalité institutionnelle. Aujourd'hui, avec cette première institution affiliée au groupe des BRICS et demain peut-être d'autres institutions comme le Fonds monétaire des BRICS, comme une organisation de commerce des BRICS peut-être. C'est vraiment le premier jalon de cette reconfiguration de la gouvernance internationale que les BRICS veulent porter.
Pour vous, donc, il y a réellement une tentative de bouleverser cette gouvernance économique mondiale ?
C'est une tentative, en tout cas, d'infléchir cette gouvernance et de réformer l'ordre existant en l'amenant à évoluer, en accélérant les réformes au sein notamment des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Et cette banque des BRICS se présente comme une alternative pour les pays en développement qui ne souhaitent pas passer par un ensemble de conditionnalités pour obtenir des crédits. Et donc c'est quelque chose qui reflète davantage la philosophie des BRICS en matière de relations internationales.
Beaucoup doutaient de la capacité des BRICS à surmonter leurs divergences.
Oui, je crois que le groupement des BRICS a été beaucoup dénigré comme regroupant des pays, disons, hétérogènes, avec peu de points communs entre eux. Mais en tout cas, il y a un point commun qui est réel, qui est la volonté justement de s'affranchir d'un ordre international qui ne leur convient pas. Et là-dessus, ces pays ont aujourd'hui montré que cette résolution se traduisait dans la pratique par l'émergence de ces institutions. Il faut aussi noter que la Banque mondiale a accueilli plutôt favorablement la création de cette nouvelle banque, en parlant plus d'un complément que d'une rivale. Ça illustre un petit peu toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir, puisque même une institution comme la Banque mondiale doit aujourd'hui de plus en plus prendre en compte le poids croissant des BRICS et des autres grandes économies émergentes dans l'économie mondiale.
Alexandre Kateb, économiste et maître de conférences à Sciences Po Paris. Il est l'auteur du livre « Les nouvelles puissances mondiales, pourquoi les BRICS changent le monde » aux éditions Ellipse.
Ici aux États-Unis, le Parti républicain compte 16 candidats déclarés en vue des primaires pour l'élection présidentielle de 2016. Le dernier étant le gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Le premier débat entre républicains aura lieu le 6 août prochain. Pour l'instant, c'est le magnat de l'immobilier Donald Trump qui polarise l'attention. Mais les républicains sont-ils trop dispersés face aux démocrates que mène en ce moment Hillary Rodham Clinton? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Oui, il y en a 16, comme vous avez dit, et c'est un nombre extraordinaire. Ça se dit, on a le temps pour décider, et le nombre va certainement être moins dans 6 mois. Je ne vois pas exactement un problème, mais pour le moment, c'est un peu la pagaille, c'est vrai. Il y a de la guerre entre les candidats, etc., etc. En effet, c'est trop dans un certain sens, mais on va voir la réduction du nombre.
Qu'est-ce que cela signifie pour les démocrates, notamment pour Hillary Clinton?
Alors, pour le moment, il n'y en a que 3, je crois, au sein du Parti démocrate. Ça le donne un avantage à Hillary, bien sûr, qui est la première, pas le temps de tel. Mais maintenant, pour le moment, il y a de concurrence, même au sein du Parti démocrate. Et je ne suis pas certain quelle sera la personne qui va être choisie. C'est extraordinaire le fait que le sénateur tout à fait inconnu, je parle de sénateur qui n'est pas même démocrate, sénateur de Vermont, Sanders, qui reçoit pour le moment beaucoup de soutien au sein du Parti démocrate. Ça montre une faiblesse. Le problème, c'est est-ce qu'il y a vraiment une alternative? À mon avis, ce serait possible, dans le sens que ce sera quelqu'un qui n'est pas encore décidé de faire la campagne pour le moment. Il y en a 2 dans ce camp-là. Il y a le vice-président Biden et il y a toujours le sénateur de Massachusetts, Senator Warren, qui peut être peut-être quelqu'un qui va décider à faire la cour.
Du côté des républicains, c'est le milliardaire Donald Trump qui est en tête des sondages, face notamment à Jeb Bush, qui est modéré. Cela va-t-il durer? Cet homme qualifié de xénophobe, mais qui est pour d'autres plus un provocateur en vérité, est-il présidentiable?
Alors, c'est difficile à dire, bien sûr, mais je dirais que ça ne va pas durer. On a vu ça il y a 4 ans avec d'autres candidats qui a pris l'avantage, qui a mené dans les sondages, par exemple Herman Cain. Ça a duré quelques semaines, mais finalement, ça a terminé. Alors, je vois la même chose pour Donald Trump, alors que ça va prendre peut-être plus de temps. Si vous dites qu'est-ce qu'il est présidentiable, dans le sens pour vraiment être un candidat, je dirais personnellement non. Et je pense aussi qu'au fur et à mesure, ça va être l'opinion des républicains. Donc, pour le moment, je crois que c'est un moment et pas la grande durée.
Professeur James Caesar, joint à Charlottesville, en Virginie.
Salut les amis. Ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est tout pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Présentation Claire Morin-Gibourg et chérubin Gabi Dorsil.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA.